Ludovic Lesven, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'ambassadeur cette année de la Fête de la Science en Hauts-de-France, une fête donc qui va démarrer le 7 octobre pour se terminer le 17.
Oui, tout à fait, oui. Donc beaucoup d'événements en Hauts-de-France, à peu près plus de 200 événements qui vont avoir lieu sur le territoire.
Alors, ce n'est pas la première année, hein, cette édition est une parmi les nombreuses qui ont été réalisées avant. J'imagine que chaque année, il y a des lieux qui reviennent et d'autres, voilà, c'est le ressourcement permanent.
Oui, tout à fait. Donc là, on sera sur la 31e édition. Donc encore, oui, effectivement, plein de lieux qui reviennent sur tout le territoire, dans chaque département. Donc ici, par exemple, dans le coin, en fait, dans le nord et puis dans les Hauts-de-France, on va avoir des événements qui vont avoir lieu à nouveau. Par exemple, le festival de l'université de Lille, qui aura lieu à la Halle au Sucre et au musée d'histoire naturelle. On va avoir aussi le forum départemental des sciences de Mulhouse qui va proposer encore un village des sciences. On va avoir Dunkerque aussi qui va proposer des choses. Enfin, il y a tellement de choses qu'il faut plutôt aller voir sur le site fêtedelascience.fr où tout est réuni. En fait.
Alors le Pas-de-Calais évidemment aussi.
Bien sûr, le Pas-de-Calais aussi, bien sûr. Donc du côté de Arras et de Lens, en fait, il y aura également aussi un village des sciences piloté par l'université. Voilà.
Et Amiens.
Pareil, également l'université d'Amiens qui va proposer des choses. Moi, je vais faire par exemple une intervention du côté de Abbeville, donc la maison pour tous d'Abbeville. En fait, il y a plein de partenaires qui sont mobilisés en fait pour cette fête de la science.
Donc cette année, vous avez choisi un thème particulier qui est dans l'air du temps, on va dire.
Oui, tout à fait. Donc le thème cette année, c'est donc le changement climatique, atténuation, adaptation. Donc le nom exact, c'est réveil climatique. Et donc on est vraiment malheureusement dans l'air du temps. Et donc c'est un sujet que j'affectionne. Alors je ne sais pas si on peut dire affectionner parce que c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas c'est un sujet que je connais et qui est malheureusement dans l'air du temps et qu'il va falloir du coup essayer d'expliquer un maximum à tous les citoyens de la région pour que chacun comprenne ce qu'il doit faire et puisse donc avancer sur cette problématique inquiétante qui nous guette depuis beaucoup d'années en fait.
Alors c'est vrai que les scientifiques certains d'entre eux nous ont alertés il y a bien longtemps. Entre deux, est-ce qu'on a dormi? Est-ce qu'on n'a pas écouté? Comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là?
Je pense que c'est un peu tout ça. En fait, on a un petit peu dormi, on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Puis je pense que beaucoup de gens croient aussi au génie scientifique et technique, et en se disant on va forcément trouver une solution pour résoudre les sécheresses, résoudre les inondations, résoudre les tempêtes, résoudre la ressource en eau. Et donc on se dit que tant que c'est pas à notre porte et tant qu'on n'a pas subi par exemple un feu de forêt au bord de notre maison, en fait, finalement, on se dit tout se passe bien et tant qu'on a pas mal, finalement, en fait, on continue à se dire ça sera pour demain ou après-demain et puis on fera ce qu'il faut plus tard, mais pour l'instant, ça nous touche pas, en fait.
Est-ce que ça peut être intégré à l'idée générale que c'est la fin de l'abondance?
Oui, c'est la fin de l'abondance et j'espère que ça va l'être parce que, donc je disais tout à l'heure, soit il y a des gens qui croient au génie scientifique et technique, mais moi je pense qu'il faut plutôt aller vers une période de sobriété et donc prendre un virage à 90 voire même à 180 degrés pour vivre différemment et pas comme aujourd'hui en fait. Mais pas forcément plus mal, vivre différemment avec quelque chose peut-être de plus beau, plus artistique, plus philosophique, comme pourrait dire un collègue chercheur, Aurélien Barraud, donc quelque chose de différent, mais pas forcément moins bien, en fait, mais en tout cas, moins d'abondance, moins de consommation et plus de déplacements, par exemple, doux, voilà.
Alors, au point où on en est, changer de mode de vie, alors on peut imaginer changer certaines pratiques, certaines habitudes, mais d'une manière globale, c'est difficile à appréhender. Quelle serait la vie idéale pour une planète idéale?
Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est quelque chose de global, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche la Terre entière. Et même, malheureusement, même si on fait des efforts, par exemple, sur notre territoire, les Hauts-de-France, ou en France, ou en Europe, ça va pas forcément résoudre tous les problèmes qu'on rencontre à l'échelle planétaire. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on montre l'exemple, en fait, parce que finalement, ce changement climatique, il a été créé par la société occidentale dès la révolution industrielle. Et même s'il y a des pays qui aujourd'hui polluent beaucoup plus que nous, il faut tout de même montrer l'exemple et pas se dire, bah non, bah, eux, ils polluent plus que nous, donc du coup, nous, on fait plus d'efforts parce que tant qu'ils font pas d'efforts. Donc, il faut montrer l'exemple à petite échelle, mais aussi à grande échelle. C'est-à-dire qu'il faut que aussi notre politique française soit à la hauteur des événements qui vont arriver donc dans les dizaines d'années ou dans les centaines d'années, c'est-à-dire donc vraiment une vraie politique qui soit faite pour que on résolve ce changement climatique déjà à l'échelle de la France et puis après bah, qu'on montre l'exemple à l'échelle mondiale en fait.
Alors quand on dit qu'il y a des pays qui polluent plus que nous par exemple que la France, hein, pourquoi pas à savoir par nombre d'habitants, est-ce que la pollution de l'un comme de l'autre est comparable, plus ou moins. Et puis aussi, la pollution par délégation, c'est-à-dire ce qu'on ne fabrique pas ici, qu'on fait fabriquer ailleurs, c'est un petit peu faux cul de dire que c'est de leur faute.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est se rendre compte aussi que, effectivement, voilà, en apparence, on pourrait polluer moins, effectivement, mais par contre, après, bah, toute la gestion, par exemple, de nos déchets, que l'on voit un petit peu très loin de nos yeux, voilà, et produit beaucoup de gaz à effet de serre et donc contribue donc du coup au changement climatique. Donc il y a ça, il y a aussi effectivement bah, toute la production de, bah, par exemple, nos smartphones, cette technologie qu'on utilise au quotidien et qui est produite ailleurs et qui génère également des gaz à effet de serre et donc du changement climatique. Donc effectivement, il faut pas être focus là-dessus et il faut se rendre compte que voilà, on n'est pas du tout exemplaire sur aujourd'hui. Et donc il est vraiment le temps de faire quelque chose, mais on peut faire des petits gestes au quotidien, donc ça on est habitué à le faire, donc prendre moins sa voiture, consommer moins de viande, ça on sait, faire plus de zéro déchet, tout ça on le sait en fait, mais ça suffira pas s'il n'y a pas une politique globale qui va dans le sens de voilà, on prend un virage à 90 et puis on change notre mode de fonctionnement et global en fait.
Alors effectivement, changer nos habitudes, notamment notre consommation en masse, ça peut représenter beaucoup de changements, notamment pour les entreprises qui travaillent, qui produisent et qui, elles, défendent aussi leur économie.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le problème, en fait, c'est que business va pas forcément avec environnement. Et donc, on a souvent des freins, on le voit hein, au niveau politique, entre les lobbies qui imposent des choix et puis ce qu'on voudrait vraiment faire pour l'environnement. Et donc, tant qu'on n'aura pas, voilà, on n'ira pas au-delà de ça, enfin, on n'ira pas très loin, en fait.
Donc, effectivement, il y a ces lobbyistes qui sont assez puissants, hein, même à l'Union européenne, ils sont assez impressionnants, ils ont tous leurs bureaux dans les lieux. Est-ce qu'on peut, en parallèle, avoir des instances citoyennes qui puissent faire la lumière sur ce qui est vrai ou pas de leur communication et de ce qu'ils essayent de faire passer comme législation parfois, hein. Ils amènent pratiquement des textes prêts à être repris par les députés ou par des gens influents.
Enfin, il y a une motivation là-dessus, mais peut-être que cette mobilisation citoyenne n'est pas encore assez forte pour pouvoir changer les choses en fait au niveau politique nationale en fait et européenne. Donc, aujourd'hui, j'avoue que je sais pas comment faire pour que les choses changent réellement en fait, parce que souvent en fait on est avec des hommes politiques, des femmes politiques sur des mandats qui durent 5 ans, donc leur but à eux c'est de produire des choses qui seront visibles éventuellement pour se faire réélire, et l'environnement les changements de au niveau environnemental ne se passent pas que sur 5 ans, mais ça c'est quelque chose sur du long terme. Donc est-ce que finalement l'environnement doit être géré par des politiques, est-ce qu'il faut pas que ce soit géré uniquement par des citoyens en fait pour que ça avance beaucoup plus vite, je sais pas.
Alors peut-être aussi une idée, ça existe peut-être, hein, c'est que les scientifiques aident les citoyens à mieux comprendre leur univers, leur mode de fonctionnement aussi, et puis que les politiques viennent s'y intéresser à ces débats.
Oui, tout à fait. Bah, donc, c'est là, justement, dans, à l'occasion d'événements comme la fête de la science, on essaye de descendre un petit peu dans l'arène et puis soit de débattre, soit d'expliquer les théories scientifiques qui sont pas forcément toujours faciles à comprendre. Et on essaye d'aller voir le grand public qui, eux, sont des citoyens qui vont éventuellement voter plus tard. Donc, on essaye de leur, enfin, en étant humble, bien sûr, là-dessus, mais de leur expliquer les grands phénomènes, les grands enjeux environnementaux dans lesquels on est plongé aujourd'hui et auxquels il va falloir faire face plus tard. Et donc on essaie de leur donner les clés, mais est-ce que le scientifique doit arriver dans l'arène politique? Ça, je sais pas en fait. Est-ce qu'on doit rester dans notre zone de confort et ne pas interférer avec la politique? Ça, c'est une question, une grande question. Moi, je pense que non, parce que du coup, le scientifique, c'est bien de rester dans sa zone de réserve, c'est-à-dire de pas dire oui ou non, mais d'être plutôt toujours au conditionnel et pas vouloir interférer avec la politique. Sinon, on risque d'avoir des citoyens qui vont se retourner aussi contre les scientifiques, alors qu'on a besoin des scientifiques pour faire avancer la société.
Alors, les scientifiques sont aussi parfois des citoyens, je l'espère, oui. Souvent. Comment résiste-t-il? Alors, je sais que dans les labos, il y a des financements à trouver et que parfois, les labos acceptent des sortes de contrats, de conventions avec des partenaires extérieurs, voire industriels, voire même de l'armement. Ça doit exister quelque part. Comment on essaye dans cet univers complexe, de préserver une réelle indépendance ou du moins de pouvoir faire que les chercheurs puissent continuer leurs recherches, celles qui leur sont chères, sans forcément être fléchés ou indexés par une économie externe?
Oui, alors c'est vrai que depuis quelques années, le financement de projets de recherche est de plus en plus compliqué. Donc, il me semble que c'était beaucoup plus simple il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, voilà, on marche quasiment que sur appel à projets. Et donc, alors globalement, les appels à projets, c'est quand même des appels à projets nationaux, européens ou régionaux ou départementaux. Ça arrive effectivement qu'il y ait des appels à projets plutôt donc privés, donc par exemple des financements via Total, et donc c'est là que ça commence à devenir un petit peu problématique parce que le scientifique n'a peut-être pas la même liberté d'expression qu'il aurait donc avec un financement public. Moi personnellement, j'ai pas de financement privé, donc je peux pas vraiment témoigner sur ce mode de fonctionnement, mais en tout cas, ce que j'aime dans la recherche publique, c'est de pouvoir avoir cette liberté de dire ce que je veux quand je veux, en fait, et de pas avoir de frein sur mon mode de pensée et sur ce que j'ai trouvé, en fait.
Donc voilà, on le comprend bien dans votre réflexion, c'est que le monde est complexe et que c'est un tout, que beaucoup de choses se contredisent parfois, s'entrechoquent, et qu'il faut trouver une voie néanmoins pour résoudre ce problème du réchauffement climatique ou du moins des évolutions qui mettent la vie, la survie en difficulté.
Oui, c'est ça, il va falloir trouver des solutions, et donc du coup, ça passe aussi par des financements de projets de recherche, on est d'accord, et donc, mais j'espère que le maximum des financements de projets de recherche sera d'origine publique, pour éviter justement d'avoir des idées qui soient plutôt reprises par des lobbies justement privés, qui voudraient pas que ces recherches aillent dans le sens contraire de ce qu'ils réalisent au quotidien. Donc voilà, je ne vais pas citer de nom ni d'entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui voilà, on est quand même, il y a quand même voilà, globalement la recherche est suffisamment indépendante pour dire les choses. Donc par exemple, le GIEC depuis pas mal d'années explique très très simplement et avec les arguments qu'il faut qu'on est arrivé dans un point de non-retour, que le changement climatique est effectif. Il n'y a pas de possibilité de contredire ces faits-là aujourd'hui en fait.
Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que René Dumont nous disait attention, attention? Est-ce que il y a une phase où on n'a pas écouté, pour être clair, et une phase où on a commencé à en prendre conscience? C'était quand, ce moment?
Je sais pas depuis quand là, on prend conscience, et je suis pas sûr qu'on ait encore pris conscience réellement des phénomènes qui nous impactent aujourd'hui. Voilà, à chaque événement, on prend conscience, mais je pense qu'on oublie aussi rapidement en fait ce qui se passe. Donc là, par exemple, cet été, tous les citoyens français ont pu voir voilà, les feux de forêt dans la région bordelaise, même en Bretagne en fait, ce qui est quand même très rare. On a pu voir des inondations, on a pu voir des tempêtes, des sécheresses, un problème de la ressource en eau aussi, donc des nappes phréatiques très très basses. Mais malgré tout, je suis pas sûr que voilà, on en a pris conscience quand on a lu les journaux, on a regardé la télé, mais peut-être que voilà, quelques jours après, quelques semaines après, on oublie aussi vite. Et c'est un peu le problème aujourd'hui de la communication sur le changement climatique, c'est que ça c'est quelque chose quoi, qui est récurrent, qui revient avec le GIEC, soit avec les événements climatiques, mais qu'on oublie aussi sec. Et je suis pas sûr qu'on ait encore pris conscience réellement de ce qui nous attend et dans quel pétrin on est réellement en fait. Donc,
il faudrait peut-être encore 2 années comme celle-ci pour que les gens en soient réellement convaincus.
Ouais, j'aimerais bien que tout le monde prenne conscience en fait. Alors quand on en parle après, dans nos cercles, les gens prennent conscience, mais malgré tout, prennent pas forcément les dispositions pour lutter contre ce changement climatique. Parce que forcément, voilà, on est pris dans un rythme de vie avec un certain confort. Et donc, on n'a pas forcément envie de changer ce confort-là, en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'imagine que s'il y avait une réelle politique de changement là-dessus en France, pour lutter contre ce changement climatique, ça serait beaucoup plus facile. Quand on nous donne la voix, quand on nous dit que voilà qu'on n'a pas le choix, finalement, c'est peut-être mieux. Donc, on l'a vu avec le Covid. Hein, donc, on a eu beaucoup de changements, en fait, qui étaient imposés. Alors, je dis pas que c'est bien d'imposer les choses, mais en tout cas, il faut montrer la voie pour que tout le monde aille dans la bonne direction, en fait. Mais il faut également donner les moyens aussi à tout le monde de pouvoir le faire, parce que voilà, changer sa voiture thermique en voiture électrique, il faut avoir les moyens de lâcher sa voiture électrique. Donc pour moi, c'est pas forcément une bonne solution, par exemple, d'aller vers les voitures électriques. Alors attention, c'est mon avis. Moi, je pense qu'on aurait dû plutôt développer le réseau de transport local de la ville à la campagne, essayer de réduire les coûts de transport avec le train, tous ces transports doux, plutôt que de donner des subventions pour acheter une voiture électrique, en fait, qui va pas forcément dans le bon sens pour moi.
Alors c'est vrai que des idées, des frayeurs peut-être peuvent naître en se disant que les pays autoritaires, sinon les dictatures, sont mieux positionnés pour faire respecter ce qu'elles décident. En termes aussi d'environnement, comment on peut réagir humainement dans des sociétés démocratiques, on va dire équilibrées entre les besoins et les capacités de transformer les choses dans un certain temps.
Ben, je pense qu'en fait, il faut surtout bien expliquer aux gens en fait ce qu'il faut faire et que ça ne sera pas forcément tout simple, ça sera peut-être un peu douloureux, mais que aujourd'hui, on n'a plus le choix de changer sa manière de vivre, sa manière de faire. Mais malgré tout, on voit aujourd'hui que les gens, ils ont beau avoir conscience de ces problèmes environnementaux, ils changent pas forcément. Donc du coup, je pense que ça viendra d'une voie politique et de choses qui seront malheureusement imposé pour qu'on aille dans une bonne direction, en fait. Même si j'aime pas, voilà, le régime, un régime, j'aime pas la manière autoritaire de faire les choses, mais je vois qu'aujourd'hui, on a beau, faire de la médiation, dire les choses, ça change pas à la vitesse que ça devrait changer, en fait. Donc.
Alors peut-être, on peut espérer, avec les jeunes générations, si on leur apprend les choses de façon plus consciente dès le départ, peut-être qu'ils vont se mettre dans un profil nouveau d'une humanité qui veut résister au temps.
Oui, ça j'adorerais en fait hein, que ce soit comme ça en fait, et j'ai encore espoir hein, que ça se passe comme ça en fait. Et c'est vrai que les jeunes générations ont peut-être plus conscience que mes parents par exemple de ces problèmes environnementaux, parce que ils sont nés là-dedans et donc ils savent que voilà, eux ils ont pas le choix, mais il faut leur donner les clés aussi pour qu'ils puissent vivre dans ce monde nouveau en fait, avec cette manière différente de vivre, c'est-à-dire donc en étant moins connecté par exemple, ça c'est et en étant donc beaucoup plus sobre en fait vis-à-vis de toute la consommation auquel on jouit aujourd'hui en fait, il faut accompagner en fait ces jeunes là et puis pour aller jusqu'au bout en fait.
Voilà, donc on a mis les problèmes un peu sur la table là, les résoudre ça prendra du temps, mais on est dans une certaine urgence, on l'a bien compris. Donc la fête de la science, ces journées sont faites justement pour dialoguer avec les scientifiques et puis aussi leur apporter, pourquoi pas, un éclairage, peut-être des demandes qui n'ont pas encore été intégrées, et pour aboutir à une société en voie d'amélioration.
Oui, c'est ça. Alors donc sans prétention, en fait, hein, la fête de la science, le but, c'est dans un premier temps, pour moi, hein, donc c'est de partager donc la science en général, et donc là cette année, surtout les causes et les conséquences, parce que voilà, si on comprend bien les causes du changement climatique, on sait quoi faire et on sait comment donc atténuer ce changement climatique, c'est-à-dire donc savoir que voilà, le changement climatique est dû à la combustion des énergies fossiles et que par exemple le transport, l'électricité, etc. va produire des gaz à effet de serre et donc du changement climatique. Donc voilà, donner les bonnes causes du changement climatique et pas de mélanger tout. Et donc c'est le rôle en fait des médiateurs, des scientifiques qui seront sur cette fête de la science au travers des plus de 200 événements qu'il y aura donc en région Hauts-de-France. C'est-à-dire donc donner des clés pour comprendre, partager ce qui se fait en laboratoire aujourd'hui et sensibiliser les gens donc à cette science. J'espère aussi susciter des vocations parce que voilà, le changement climatique, on va pas le résoudre là dans les 5 prochaines années. Oui, il va y avoir beaucoup de travail à faire dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc c'est les citoyens jeunes d'aujourd'hui qu'il faut sensibiliser à cette cause pour qu'ils puissent être les acteurs de demain, en fait, des solutions qu'on va pouvoir apporter, ou en tout cas des virages à 90 degrés qu'on pourra prendre plus tard.
Voilà, donc on a bien compris que la fête de la science, c'était aussi une façon de sensibiliser des jeunes pour entrer dans ces métiers de la recherche et trouver des solutions pour le monde.
Oui, c'est ça, voilà, donc on espère que qu'on leur donnera envie de changer les choses, soit alors, donc avec du génie scientifique, soit en trouvant des solutions pour vivre plus sobrement, en fait, et puis trouver des solutions aussi. Donc, alors ça, c'est pas forcément que les scientifiques, hein, mais des solutions économiques, des solutions sociales pour vivre pas moins bien, mais différemment, en fait.
Bien, merci Ludovic Lesven, et bonne fête.
Merci.